c'est un auteur qui occupe une place très particulière dans mon parcours. Donc, voilà. Merci de l'invitation.
Donc, voilà. Donc, le décor est planté. Vous comprenez, mesdames, messieurs, que c'est une série d'émissions spéciales. Donc, le format de Livre Neuf a un petit peu changé. Donc, on va... Et pendant tout le mois, en fait, tout le mois consacré à Marie-Vieux Chauvet, donc on va mettre de côté les différentes rubriques donc pour recevoir, pour avoir une émission très large. Donc les 60 minutes sont consacrées entièrement à notre invité. Donc ce sera ainsi jusqu'après 29 mai. Lors de l'émission bilan que nous aurons. Donc, Darline, donc, voilà, donc on met de côté un petit peu et disons l'appellation par les noms. Donc, on est là et dans un cadre plutôt ouvert. Et c'est pas dans le milieu universitaire. D'accord. Donc, tu peux nous appeler aussi par notre prénom. Donc, oui, oui. Et donc, Livre en folie, c'est, disons, dans quelques 15 jours. Donc, l'invité d'honneur, c'est Marie-Vieux Chauvet. Donc, juste avant et d'arriver à elle. Donc, Livre en folie, tu es une habituée de cette foire.
Oui. Oh, mon Dieu. Déjà, quand Livre en folie était au Cercle Bellevue, ils ont changé de local à peu près 3 fois avant d'arriver au parc historique de la Canne à Sucre. Mais disons, l'édition d'il y a 2 ans, ça a été dur pour mes pauvres jambes. Et donc, j'ai pris l'habitude depuis quelques temps de combiner achat en ligne. Et quand vraiment, quand c'est possible, quand je le peux, je me rends au parc historique de la Canne à Sucre. Mais il y a une année, bon, depuis lors, ça a changé, puisque Livre en folie s'étend maintenant sur 2 jours. Mais il y a une année où vous avez eu quasiment 16 000 visiteurs en un seul jour. Et ça a été extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Donc, c'est une très bonne décision que d'avoir mis ça sur 2 jours. Donc, une journée pour les écoles. Une journée que les parents peuvent consacrer à accompagner les enfants au parc historique de la Canne à Sucre pour qu'ils puissent eux-mêmes avoir plus facilement accès au stand. Et une autre journée vraiment pour les habitués et de la... ceux qui tiennent vraiment à la tradition de la fête Dieu. Donc, ils veulent être là le jeudi. Donc, oui, une habituée maintenant sur Internet aussi parce que je fais ma présélection et j'attends en ligne pour placer mes commandes.
Alors, si en fait nous autres, nous sommes, disons... et des adeptes, des obsédés même, et du livre, et Livre en folie, pour nous, c'est l'une, sinon la plus grande, et foire du livre du pays. Et disons, plus de 20 ans, donc depuis que cela dure, donc c'est une aventure qui s'inscrit dans la durée, si l'on comprend bien, et ça a toute sa place au pays.
Tout à fait. Mais je crois que l'année dernière, ça a été une année, l'année des 20 ans, donc il y a 2 ans toujours. Ça a été une année extraordinaire parce que c'était les 20 ans. Mm-hmm. Donc c'était le moment de faire une espèce de bilan aussi de la place de Livre en folie dans le paysage culturel haïtien. Donc j'ai entendu beaucoup d'interventions. Il y en a eu à l'Institut français, il y en a eu à l'université, il y en a même eu du comité d'organisation de Livre en folie. Où l'on fait la part des choses, ce que ça apporte dans le paysage culturel, mais aussi ce qui reste encore à faire. Je crois qu'il y a eu des retombées positives, parce qu'avec Livre en folie, on a vu également une multiplication des maisons d'édition, parce que ça, c'était un des points faibles. Ça ne dépend pas de Livre en folie qu'il y ait des maisons d'édition, parce que beaucoup d'auteurs publient le plus souvent en Haïti à compte d'auteur, mais... Il y a eu effectivement, moi je me suis beaucoup plainte de ça. On achète des livres et il manquait une page, il manquait 2 pages, ou les pages étaient mal agrafées, etc. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup de remarques faites par les auteurs, par les habitués de Livre en folie, qui a, je pense, même si on ne voit pas les liens immédiats et directs, Je pense que je m'avance beaucoup puisque vous êtes là et que vous êtes beaucoup plus à même que moi d'en parler. Mais peut-être que Leg Edition est née justement de cette seconde vie pour le livre, de cet engouement créé pour le livre. Peut-être vos parcours aussi, bien sûr. Mais il y a un désir du livre. Il y a un désir de l'écriture qui est tout à fait légitime chez les jeunes. Mais il faut également l'institution qui va avec aussi pour permettre à ce que les œuvres présentées au public soient des œuvres de qualité. Et il faut des éditeurs pour dire aussi de temps en temps aux plus jeunes, ce que vous faites là, c'est intéressant, mais peut-être que si vous attendez 2 ans, le temps que vous retravaillez votre texte, ce sera encore mieux. Parce que ça aussi, c'est un problème. Beaucoup de gens maintenant travaillent à avoir une frette pour livre en folie.
Ça devient une rentrée littéraire.
Ça, voilà. Mais sans l'environnement institutionnel pour le faire. Donc, comme je le dis, ça, ce n'est pas le rôle de livre en folie que de mettre en place des maisons d'édition pour que ce soit possible. Mais je me dis, puisqu'il y a cette demande-là, donc, il faut que des institutions de ce genre prennent naissance. Bon, mais je dis ça en sachant très bien aussi quelles sont les difficultés du milieu. Mais plus de maisons d'édition, plus d'institutions de relecture et plus de gens aussi pour avoir le courage de dire à un jeune qu'une œuvre peut atteindre, quitte à se faire haïr, parce que ça
faut
arrive.
Il ne faut pas se presser.
Tu sais, une fois, j'ai eu un étudiant qui voulait que je relise un texte. J'ai lu, j'ai dit, bah, c'est bien, il y a beaucoup d'idées, mais je trouve qu'il faut retravailler. Parce que l'outil quand même d'un écrivain, c'est d'abord la langue.
Tout à fait.
Que ce soit un texte en créole ou en français, c'est d'abord la langue.
La littérature, c'est ça.
C'est ça. Oui. Donc ça veut dire, bon, maintenant, une œuvre littéraire, si, il faut que l'auteur ait une conscience, il faut qu'il y ait une forme d'engagement, même si les auteurs ne veulent pas entendre parler de ça. C'est pas vous dormez, puis il y a une inspiration qui vous vient, et puis vous mettez à écrire, et puis vous pensez que vous avez produit un chef-d'œuvre. Oui, ça arrive des fois, oui, peut-être que oui. Mais il y a toujours un travail. Donc, bien souvent, il y a beaucoup d'idées, mais la manière de présenter les idées, ça demande du travail. Alors, je lui dis, mais pourquoi tu veux publier cette année? Ah non, je veux être à Livre en folie cette année. Ça peut attendre 2 ans, tu es toute jeune. Et non, c'était ça. C'était une promesse d'être à Livre en folie. Donc, peut-être que c'est bien qu'il y ait des maisons d'édition.
Mais là encore, je pense que
Leg fait un très grand effort en ce sens-là. Mais moi, je lis des publications de certaines maisons d'édition. Ben là encore, avec un collègue, on se dit, mais on va écrire une lettre parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand on est dans l'édition, il y a des tas d'éléments, de normes liées à si on fait une traduction d'une œuvre, si on fait référence à une œuvre qui existe déjà sous un certain titre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens intéressés peut-être, mais qui ne sont pas du métier. Et je pense qu'il faut, là encore, moi c'est mon dada, moi je pense que oui, tout le monde peut vouloir faire ce qu'il veut, mais quand vous décidez de faire quelque chose, vous vous donnez aussi les moyens de le faire correctement en prenant une formation à votre métier pour que une maison d'édition,
votre
c'est
image,
la qualité de votre travail qui justifie votre place dans un paysage. Donc, je pense qu'on sent trop ça. Tout le monde ne le sent pas, mais donc, les autres spécialistes du livre qui sont là, qui regardent les livres, le sentent bien qu'il y a trop d'erreurs dans un livre pour que ce soit un hasard.
Ouais, tout à fait.
On va revenir un tout petit peu à Marie Vieux-Chauvet, qui est l'invitée de Livre en folie, puisqu'on parle de la foire des bons et des mauvais côtés. Et de la partie fast-food, je dirais, des éditions et des éditeurs ou des auteurs qui publient à compte d'auteur. Mais cette année, il y a une nouveauté à Livre en folie, mis à part que l'événement s'étale sur 2 jours définitivement. Entre parenthèses, on va attendre la 3e édition après les 2 jours. Mais il y a une nouveauté et assez particulière pour moi. C'est la première fois que... un écrivain est invité à titre posthume à la foire, et c'est une femme, et c'est Marie Vieux-Chauvet. Et je sais que bon, Darlene Alexis l'a dit tout à l'heure, qu'elle a travaillé sur Marie Vieux-Chauvet. Qu'est-ce que ça vous fait et de voir un livre en folie consacré non seulement à une auteure à titre posthume, mais également à Marie Vieux-Chauvet, une auteure que vous maîtrisez?
Bon, c'est beaucoup dire. Je ne sais pas si on maîtrise les auteurs, je ne sais pas si on maîtrise les œuvres. Je crois que s'il y a un auteur qui vous intéresse en particulier, vous lisez beaucoup ses écrits. Et je le disais il y a 2 semaines au cours de la conférence internationale interdisciplinaire sur la question du genre en Haïti. Et au cours de cette conférence, j'ai fait une présentation. C'est une lecture croisée de Amour de Marie Chauvet et de Thérèse en mille morceaux de Lionel Trouillot. Le point de départ, c'était 2 journaux intimes. La forme du journal intime, ce n'est pas une forme récurrente et très connue et très utilisée dans la littérature haïtienne. Donc, je voulais les croiser pour... Bon, je ne vais pas...
Faire la présentation.
Mais je soulignais à cette occasion-là que je relisais peut-être « Amour, colère et folie » pour la 30e fois en 20 ans. Et en relisant le texte pour écrire cette conférence, parce que c'est un principe capital que de relire les textes à chaque fois que l'on va faire une présentation.
Tout à fait.
Donc, en acceptant l'invitation de Magique 9, j'ai relu Marie Chauvet. Et si vous me posez une question sur un des livres que je n'ai pas eu le temps de relire totalement, je vais le dire très franchement, parce qu'à chaque fois qu'on lit le livre,
on découvre
autre chose. Il y a toujours un détail qui vous a échappé. Vous ne savez pas comment. Vous l'avez lu, mais vous ne l'avez pas saisi. Ça vous échappe. Et puis, il se trouve que par rapport à l'aspect en particulier que vous voulez analyser, cet élément qui était un détail devient un élément central.
Et justement, il y a plusieurs portes d'entrée dans le livre.
Et à ce moment-là, le livre devient un autre livre. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire qu'être expert d'un auteur ou expert du... Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais qu'il faut relire très souvent les auteurs qui nous intéressent. Il faut relire très souvent les œuvres. Et il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de n'en parler qu'après avoir fait ce travail-là. Donc, oui, Marie Chauvet, à titre posthume, je pense que c'est justifié. Un, parce que c'est le centenaire. Et puis, c'est le centenaire qui coïncide avec le mois de mai. Justement, je crois qu'elle est née...
Elle est née en septembre.
Elle est née en septembre. Et 16 septembre,
ouais,
je crois.
1916.
C'est ça. Et bon, on est à quelques mois de la date de naissance. Et c'est le...
Le mois des femmes.
C'est le mois des femmes. Bon, ça aurait pu être le mois de mars, mais bon, c'est le mois de mai, donc c'est le mois des mères. Et peut-être que c'est l'occasion aussi, je pense que le moment est bien choisi aussi, parce que il y a beaucoup... On entend plus souvent parler de Marie Chauvet pour l'histoire de sa vie que pour ses œuvres. Je pense que c'est une auteure qui a une histoire particulière, qui fait que souvent, on oublie d'aller voir dans l'œuvre.
Ouais.
Et les textes, c'est pareil, l'histoire est tellement forte, tellement prégnante, tellement tragique, qu'on ne parle pas suffisamment de l'œuvre. Donc, c'est une très bonne occasion depuis la réédition, les rééditions de ces textes phares qui a recommencé dès l'année 2004. Je pense que ça fait 12 ans quand même depuis que les textes sont à nouveau... accessible. Donc, beaucoup plus de gens ont lu les œuvres et beaucoup plus de cours ont eu lieu à l'université autour de ces œuvres.
Beaucoup plus de conférences,
de tables rondes. Donc, je pense que le terrain a été préparé, balisé, d'accord, pour que cette invitation particulière, parce que l'auteur n'est pas là, fasse sens et d'une autre façon. Donc, moi, je suis très, très contente de ça. Mais vous savez, on a beaucoup d'auteurs là et déjà décédés qui s'alignent pour qu'on puisse les inviter. Et dans 2 ans, ce sera le centenaire de Marie-Thérèse Colimoal aussi. Ouais. Jacques-Stéphane Alexis, 1922.
Oui.
Ça va être une naissance. Donc voilà, donc en 2022, ça va être le centenaire pour Jacques-Stéphane Alexis. Donc ça veut dire, vous voyez, c'est pas une mauvaise chose, je pense que c'est bien qu'on alterne une année un auteur bien vivant chez nous et puis un auteur que les jeunes connaissent un peu moins bien. Et comme Livre en Folie est très connu, c'est une grande vitrine, attirer, faire connaître un peu plus les auteurs haïtiens aux jeunes qui arrivent là aujourd'hui, les remettre dans le paysage.
Tout à fait. Donc, Marie-Vieux Chauvet, et, en fait, il faut l'admettre, et n'est pas, et, bon, je vais prendre le risque de le dire, n'est pas si connue en Haïti, par exemple, comme un écrivain, et, au même titre qu'un écrivain comme
Jacques
Stéphane Alexis, et que tu as cité tout à l'heure, Jacques Roumain. Et d'autant plus, Marie-Vieux Chauvet, et comme cela existe dans presque toutes les littératures, donc c'est une femme, donc il y a toujours une perception, je dirais, et réductrice ou même, sexiste au sujet des femmes qui produisent, des écrivaines tout court. Donc Marie-Vieux Chauvet est en quelque sorte, victime de cette appréciation à la limite réductrice. C'est pas le mot qu'il faut, mais je pense là, par exemple, à un écrivain et qui, une fois, disait au sujet de Marie-Vieux Chauvet, c'était lors d'une activité qu'on avait organisé même en son honneur il y a de cela deux ans, il disait que Marie-Vieux Chauvet, pour lui, c'est pas un écrivain sérieux. Et il sait pertinemment que les textes de Marie-Vieux Chauvet n'ont pas été écrits par elle. C'est un garçon, son petit ami, qui a écrit tous les livres de Marie, et Marie n'a fait que les signer. Un écrivain qui a su tenir une parole pareille. Donc, est-ce que là, ces propos-là ne dérangent pas, disons en quelque sorte, c'est pas favorable à, que ce soit à l'œuvre, ça ne fait pas honneur à l'œuvre et à l'auteur en tant que tel.
Bon, je pense surtout que ça fait pas honneur à la personne qui sort ce genre de paroles.
Un écrivain en plus.
Oui, ça fait pas honneur à cette personne-là. Moi, je pense que... Donc, bon, et puis j'allais dire, il faut même pas donner écho à ça. Moi, je pense que sans s'en rendre compte, on est trop conciliant avec les gens. Moi, il y a des paroles, quand les gens les répètent, osent les dire, je ne les répète même pas, ce qui fait que la parole meurt là où elle a été dite. Donc, ça, c'est une première considération de ma part. Mais pour... Vous savez, les femmes qui ont eu un certain succès en littérature, puisque nous parlons de littérature, mais c'est valable pour beaucoup d'autres domaines. La société n'est pas disposée, en règle générale, à écouter une parole de femme. La société n'est pas disposée à admettre qu'une femme puisse avoir une parole à dire.
Parce qu'on est dans une société machiste.
Parce qu'on est dans une société machiste, certainement. Et la société n'est pas non plus disposée à mettre à la disposition des femmes les canaux qui existent pour véhiculer les idées. Ça, c'est première chose. Donc, ça, c'est dans l'organisation générale du social.
Oui, tout à fait. Donc, c'est la dictature du masculin.
Voilà, tu as quelque chose de ce genre-là. Deuxièmement, quand vous vous rappelez ces propos, donc je vais vous dire, vous savez, quand Mayotte Capétia a écrit « Moi, Martiniquaise », non, c'est ça, « Je suis Martiniquaise », œuvre pour laquelle elle a obtenu en 1949 le prix France Antilles, comme Marie Chauvet va l'obtenir, elle, en 57 pour Fille d'Haïti, et un peu plus tard, en 1960, pour Fond des Nègres. Et Marie-Thérèse Rolimoual l'obtiendra en 1974 pour fils de misère. Eh bien, la première chose qu'on a dite, le livre a été publié, elle a été primée, mais c'est un livre qui arrivait dans ce contexte où c'est un livre qui était en opposition au discours dominant. Discours dominant que j'assume, bien sûr. Donc, pour vous montrer que c'est même pas une affaire, que c'est une femme, etc. Mayotte Capétia écrit « Je suis martiniquaise » où elle parle de son désir pour, enfin, le personnage parle de son désir pour un personnage blanc, alors qu'on est en plein dans le mouvement de la négritude qui chante la beauté du noir. Oh, c'est ce livre-là qui obtient le prix France Antilles.
C'est ça, on voit ça comme un paradoxe.
Donc c'est, il faudrait, je veux pas trop rentrer dans les jugements parce qu'il faudrait que je vois quels étaient les ouvrages en lice à l'époque. Peut-être qu'il y avait des ouvrages plus intéressants, peut-être que. Mais je veux dire, il y a eu la même polémique autour de Je suis Martiniquaise de Capétien, disant que c'est pas elle qui a écrit, c'est Étienne, etc. Vous pouvez lire le très beau livre de Myriam Cotias, qui retrace un peu toute cette polémique-là à l'époque, et pour bien montrer que oui, c'est Mayotte Capétien qui a écrit son livre. La même chose pour Marie Chauvet. Donc, il y a des gens qui répètent ça. Alors, ils se basent sur quoi? Oui, regardez. Bon, ils le disent surtout pour Amour, Colère, Folie, pas pour toute sa littérature. Ils disent, regardez la différence entre les œuvres précédentes.
Par exemple, avec Fille d'Haïti.
Et Amour, Colère, Folie. Alors, comme si quelqu'un qui aurait passé
question de maturité quand même.
10, 15, 20 ans à écrire devrait être exactement au même niveau 20 ans plus tard que le premier jour. Moi, j'ai lu, par exemple, les textes, le texte d'Anthony Phelps, qui est sorti dans le journal Le Devoir, comme un témoignage sur ses rapports avec Marie Chauvet. Quand tu lis également Petit frère, Une saison de cigales de Philoctète, il y a un passage où il parle de ces jeunes écrivains qui se réunissent chez Marie Chauvet, etc. Oui. Oh, les noms changent un peu. Mais, et puis, il y a beaucoup de témoignages pour vous dire comment c'était quand même une femme de lecture, de grande culture, de grande curiosité intellectuelle. Et puis, les gens voudraient qu'elle soit au même niveau entre 57 et 68. Et les gens, quand même, sont. Il y a beaucoup de malhonnêteté dans l'affaire. Moi, quand même.
Donc, c'est parce que c'est une femme. C'est pas. Toute la question est là. Donc, c'est une femme. Et est-ce qu'une femme sera en mesure de tenir de tels propos, c'est d'avoir tel discours, tout ça? Donc, toute la question se résume là.
Est-ce que la personne a dit que c'est une femme? Parce que tu sais, il y a des fois des jalousies. Entre écrivains aussi. Bon, enfin, même si c'est l'un d'entre eux n'est plus là. Parce que des fois, peut-être que les gens sont un peu aigris. Ils auraient aimé avoir écrit cette œuvre-là. Ce n'est pas le cas. J'évite aussi le piège, tu vois, de tout lire au prisme du machisme. Il y a peut-être du machisme dans les propos, mais des fois aussi, ça peut être cette rage-là. C'est « je veux être à ce niveau-là, je veux avoir cette notoriété-là, ça ne vient pas ». Et puis, bon, je me mets à sortir des propos, etc.
Et puis, il y a aussi la question du pseudonyme. Donc, Chauvet, quand elle avait commencé à écrire, elle a dû emprunter un nom d'oiseau, colibri. Mm-hmm. Donc, comme cela a été le cas avec d'autres écrivains, et on en a vu, par exemple, avec Dupin, George Sand, donc, mm-hmm. Qui a dû utiliser un pseudonyme ou Colette qui a dû signer le nom de son mari. Ken Bougoul, par exemple, est en Afrique. Et donc, Marie Tour, en fait. Attends. Bon, le nom de plume, c'est Ken Bougoul, mais le nom de l'écrivain est Marie Tour. Mm-hmm. Vous voyez? Donc, elles ont dû, ces femmes-là, recourir à des pseudonymes pour pouvoir écrire. Donc, Marivieux était pris dans le même prisme qu'Olibri quand elle a signé son premier texte.
C'est le nom qu'elle a utilisé pour une pièce de
théâtre. Pour une pièce de théâtre, Colibri. C'est
La Légende des Fleurs.
La Légende des Fleurs, et puis Samba aussi.
Donc, ce sont les toutes premières œuvres. Mm-hmm. Quand tu lis le texte de Paulette Pojol-Oriol sur les femmes dans la littérature haïtienne, c'est un texte théorique qu'elle a écrit sur les femmes dans la littérature haïtienne. Et elle revient beaucoup sur les auteurs, les toutes premières romancières que nous avons eues, d'accord? Et à la fin des années 20, début des années 30, donc les Clément de Graval-Saint, les Jeanne Pérez, etc. D'ailleurs, Jeanne Pérez, tout ça, tu vois, je fais référence à elle, je n'ai jamais lu ce qu'elle a écrit. Je sais qu'elle l'a écrit, mais des fois, même avoir accès aux livres qui ne sont pas réédités, c'est la croix et la bannière. Mais elle raconte comment, même avec le support de Jean Price Mars, client de Grave Valsin, on en a très peu parlé.
Elle est
dans la presse.
Oublié, si.
C'est silence radio. Et Jeanne Pérez, alors là, elle, ça a été encore pire parce qu'elle a écrit un livre où elle a osé parler d'adultère.
Donc il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder.
Il y a des sujets. Tabous. Nous sommes au début des années 30, nous sommes au cours des années 50-60. Je pense que ce sont des femmes qui proviennent quand même de la petite bourgeoisie noire ou de la petite bourgeoisie mulâtre. Et il y a une représentation des femmes de leur milieu. Il y a une représentation de l'honnête femme. De quoi les femmes sont-elles autorisées à parler?
Mm-hmm.
Bon, une honnête femme ne devrait même pas savoir qu'il existe quelque chose qui s'appelle l'adultère. Voir un désir, voir le désir.
Ouais. Ou même le concubinage.
Voilà. Ils savent, mais ça, c'est pas pour eux. Ça, c'est pour les autres, pour les analphabètes, pour le peuple. Mm-hmm. Mais les honnêtes femmes se marient. Mm-hmm. Vous comprenez? Dans l'amour de Marie Chauvet, d'ailleurs, il y a ça. Il y a sa copine d'école. Non, il y a Annette qui va se marier.
Annette, oui.
Mais sa copine d'école qui a eu l'enfant.
Félicia d'abord, Félicia.
Qui a eu l'enfant sans être mariée.
Oui,
qui a été mise au banc.
Qui a été mise de côté par sa famille.
Qui a été mise au banc, etc., de la société, avec interdiction pour toutes les autres de lui adresser la parole, parce que c'est une pestiférée qui risque de contaminer les autres. Bon, je pense qu'il y a ça. Et heureusement, les choses ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, je doute fort vraiment que on ait reproché à une femme d'avoir abordé tel ou tel sujet. On va peut-être se plaindre en privé, mais je doute fort que publiquement, quelqu'un ose dire que ça, c'est des sujets qui concernent les femmes, des sujets qui concernent les hommes. Ben, je doute fort qu'il y ait ça. Donc, écoutez, un pseudonyme pour commencer sa carrière, ça, beaucoup d'auteurs l'ont fait. Et elle a très rapidement utilisé son vrai nom. À partir de Fille d'Haïti, elle a toujours utilisé son nom. Donc, je pense que, oui, elle ou tâter un peu le terrain, on se lance dans une voie, etc. Elle utilise un pseudonyme, mais est-ce que c'est forcément pour se cacher du social? Bon, je ne vais pas trancher et dire que non, que ce n'était pas nécessaire, mais il paraît que quand même la Légende des Fleurs a eu énormément de succès.
Ça a été représenté
au Rex Théâtre. Et il y a eu énormément de succès. Bon, tout le monde savait bien sûr que c'était elle. Elle tenait salon par la suite, d'après Phelps.
Et d'après aussi Madeleine Gardinier qui a fait un livre Madeleine Gardinier,
Phelps, Dépêche, tout ce monde-là a témoigné. Elle tenait salon, donc elle était connue comme une femme de lettres dans les milieux lettrés de ce pays. Donc c'était pas une inconnue. Elle était très connue.
Tout à fait, mais et le discours de la critique littéraire à cette époque, je dirais même le seul grand critique littéraire qu'on a connu,
Pompilus
qui a écrit une Bible de l'histoire de la littérature haïtienne. Bible, pourquoi? Parce que c'est un livre qu'on ne peut pas, et que tous les autres critiques, je dirais, ont copié. Et puis,
les critiques
Pompilus,
traditionnelles,
monsieur
surtout.
Pompilus en fait. A dit que Marie Chauvet écrit avec facilité, son style manque généralement de force, qui fait que le discours critique sur Marie Chauvet n'était pas trop bien, ou encore l'œuvre de Marie Chauvet n'était pas trop bien accueillie par la critique littéraire, par Pradel et Raphaël Béroux.
Mais quand elle a publié en 60 Fond des Nègres, elle a eu... Bon, Pressman, ça a été le champion de ces dames. Il y a eu une lettre critique de Pressman publiée dans les journaux avec c'était des propos quand même très
élogieux
de la part de Pressman. Très élogieux.
Et donc, on va parler tout à l'heure on va rentrer un petit peu dans l'œuvre de Marc Vieux-Chauvet. Donc, on va essayer de nous attarder un petit peu sur la fameuse trilogie Amour, colère, folie, donc qui est la pièce maîtresse de Marie Vieux-Chauvet. Mais juste avant, nous allons vous inviter à écouter une chanson. En fait, la voix de Kébert Bastien qui chante Edzer Villers, donc La vie solitaire pendant l'occupation américaine. Donc, écoutez ça.
Chanter, parler, écrit pour ceux que tourmentent les drames de la vie, les problèmes de la destinée et de l'âme, Edgar Villers. Un jour dans un secret et moi, j'ai revécu l'histoire infâme. J'ai vu le spectre d'une femme. Elle m'a dit, mon fils, c'est moi. Elle m'a dit, mon fils, c'est moi. Ma tombe est une ville claire où saigne ce drame m'appelait. Dans la mort à travers les temps, je suis l'esclave ton ailleurs. Je suis l'esclave ton ailleurs.
Kiber Bastien, Keb, Bilou, donc Bilouni Mura, et puis Renette Désir Neti, donc chante Edzer Villers, donc un extrait du texte La vie solitaire pendant l'occupation américaine, un livre que nous avons publié avec le support l'ambassade de Suisse en Haïti, donc pour être distribué gratuitement, 5000 exemplaires et dans les écoles publiques de la capitale et des villes de province. Donc, la caravane de distribution continue son petit bonhomme de chemin. Donc, c'est fini par au prince pratiquement. Donc, on va mettre le cap sur les écoles publiques des villes de province. Alors, on revient à Marie-Vieux Chauvet. Donc, je rappelle que nous recevons Darline Alexis. Donc, qui nous parle et de l'auteur. Donc, on va faire un coup de pied dans l'œuvre de Marie-Vieux Chauvet. Donc, et à mon colère, folie d'abord. Donc,
et si on commence avec Les Rapaces
bon,
d'abord.
Les Rapaces. Donc, Les Rapaces, c'est une œuvre qui est, disons, méconnue ou mal connue et de Marie-Vieux. Et d'ailleurs, ça a été publié à titre posthume, donc en 86, à la place de Amon Colère Folie, qui venait de recevoir le prix littéraire et Henri Deschamps. Les Rapaces, donc c'est une œuvre qui retranche la deuxième période de la dictature de Duvalier. Donc l'histoire d'un écrivain, comme on en a vu on a eu un écrivain aussi dans Mon Colère Folie, précisément dans la troisième partie du livre, Folie. Donc, Michel, qui écrit un livre. Donc, le but, c'est d'essayer de porter le peuple à la révolte. Un livre pour ouvrir les yeux du peuple sur les mauvaises conditions de vie. Donc, c'est un livre que l'on prendrait le risque de qualifier, entre parenthèses, de révolutionnaire.
Alors, je dois dire aux auditeurs que vraiment, parler des rapaces devant petit frère, c'est un peu embêtant parce qu'il le connaît bien mieux que moi. Parce que je sais qu'il est en train de travailler à une traduction en créole. Hein? Bon. Ça a été annoncé. C'est quasiment fini.
Oui, c'est dans les tiroirs.
D'accord. Bon. Alors, moi, ce que j'aime dans les rapaces de Marie Chauvet, c'est déjà la construction. L'autre jour, en discutant avec une étudiante qui veut faire son mémoire de sortie à l'école normale sur Marie Chauvet, et donc, on en était arrivé au fait, en fait, tu as une construction, tu es comme pour les poupées russes. Donc, tu as un élément qui englobe un autre, qui englobe un autre, qui
le
est plus
chat,
petit.
La police,
donc, tu commences par... Mais c'est une œuvre allégorique.
Mm-hmm.
Tu as d'abord, tu es dans un pays, bon, ça correspond...
Les classes sociales.
Regarde, l'histoire commence par les funérailles
d'un
grand dictateur. Et qui est-ce qui est pressenti pour remplacer ce grand dictateur? C'est le fils. Nous sommes dans un pays où, derrière les fastes du pouvoir, il y a une population qui meurt de faim. Une population qui durera jusqu'aux policiers, est prise dans une spirale de violence absolument monstrueuse pour pouvoir faire plaisir au chef, essentiellement. Donc, c'est un désir du pouvoir. Bon, d'abord, le pouvoir de manger pour les plus faibles.
Ouais.
Le rat grignote les pieds des plus pauvres. Le chat mangera. Les plus pauvres veulent manger le chat, parce que même dans les poubelles des marchés, il n'y a absolument rien. Parce qu'on a des mendiants et des pauvres partout. Personne ne peut se plaindre.
C'est la misère, parce que la famine.
Voilà, les sbires du pouvoir n'ont absolument aucun mal à dépeupler le pays. Ça ne gêne pas. Vous vous plaignez, on vous abat.
Oui.
Alors, les pauvres veulent manger le chat. Ils finiront par manger le chat.
Ouais.
Les pauvres, parce qu'ils ont mangé le chat, sont en contravention avec la justice, parce que brusquement, le pouvoir se rappelle qu'il a pour devoir de protéger les chats.
Les chats.
Hein?
Tout à fait.
Les tentations. Et
c'est une belle allégorie.
De la folie carnivore et des plus pauvres.
Et en même temps, ils volent.
Et puis en même temps, non, mais tout ça.
Ils font tout.
En fait, tout n'est que prétexte. Tout n'est que prétexte pour assouvir ses désirs.
Oui, la dépossession. Et
on est dans ça, mais c'est une vraie jungle. Mm-hmm. C'est décrit comme on est vraiment dans une vraie jungle où l'humanité est réduite à sa plus simple expression. On veut exploiter, on veut le pouvoir, on veut le sang. On ne le fait pas toujours parce qu'il y a un désir de méchanceté, mais on mange, il faut qu'on mange, on a faim.
Tout à fait.
On a des enfants qui sont là devant soi, qui vous regardent.
Et le cas d'Alcindor, par exemple,
voilà.
Avec ses quatre
et
enfants.
On est dans cette spirale absolument monstrueuse. Et c'est bien qu'on ait cette œuvre-là sur la période 2 du pouvoir du valériste. Parce que très souvent, il y a une espèce de discours qui tend à atténuer, enjoliver, en disant que c'était moins dur, il y avait plus de
vertus,
c'était pas le père, etc. C'est des lectures révisionnistes d'un pouvoir quand même qui n'était pas moins sanguinaire que le pouvoir du père. Donc, c'est très bien qu'il y ait eu cette œuvre-là. Malheureusement, un peu moins connue. Vous savez, beaucoup de critiques disent que Marie Chauvet, c'est l'auteur d'une œuvre.
Ah oui.
Parce que Amour, colère et folie, vraiment...
C'est l'œuvre la plus connue.
C'est l'œuvre la plus connue. Mais c'est les critiques qui oublient qu'avant Mon colère folie, Marie Chauvet était déjà une auteure très connue.
Tout à fait.
En
avec
Haïti.
Fille d'Haïti.
Déjà très connue.
Oui. Ben ici.
Dans le milieu haïtien. D'accord? Peut-être pas. Et encore, j'allais dire pas au niveau international, mais quand même dans le monde de l'édition. Dans le monde de l'édition en France. Puisque la plupart des auteurs,
Gallimard,
à part ceux qui...
Chez Plon.
C'est ça. Donc cette, elle était déjà connue aussi 60, 68. Dans certains milieux littéraires en France. Elle était en correspondance avec de Beauvoir, elle était en correspondance. Non, je pense qu'il y a un discours comme ça qu'il faut remettre en question.
En fait, c'est pas seulement ce discours. Bon, et nous autres, on est pour la, disons, et la remise en question de plein de discours sur la littérature haïtienne. Par exemple, Robert Charles, qui dirige la collection classique de Leg Edition, donc est en train de voir comment repenser le discours sur la littérature classique, les auteurs classiques. Il faudrait réécrire l'histoire.
Ou du moins s'en faire une contre-histoire de la littérature haïtienne.
Tout à fait, parce qu'il y a tellement de clichés, de discours tout, disons, tout fait, et sur les auteurs, sur la littérature et haïtienne, disons, de façon générale.
C'est une bonne démarche, effectivement, que de proposer une autre histoire. Et l'histoire qui est là, moi j'ai beaucoup critiqué les écrits de Pompilius et Bérou, mais je pense que
Tu vas t'attirer la foudre.
Oh, moi je suis très tranquille avec ça, ça ne me fait pas peur. Ça. A...
Parce que je me rappelle une fois, on a osé toucher à nous autres à Pompilius, et puis il y avait trois personnes, il y avait un romancier, deux autres, disons, critiques, entre parenthèses, autoproclamés, puisque nous autres, on est pour l'académique, on est très dans l'académique, parce qu'on ne peut pas être critique et littéraire et puis sans avoir une base théorique. Donc, ils se sont dit, Pompilius, touchez pas, hein, vous êtes qui pour dire ça, oser?
Moi, je pense que tout dépend.
Il faut reconnaître mérite.
Voilà, quand tu remets en question, qu'est-ce que tu remets en question? Moi, je dis toujours que le Pompilius Ébérou, c'est un modèle
dépassé
de discipline. Non, c'est un modèle de discipline et de ténacité. Mm-hmm. C'est quand même trois tomes. Juste le dernier tome, on a l'impression que jusqu'à la veille de la publication, ils ont tenu compte de ce qui était publié au cours de la période. Donc, je pense que c'est une somme de travail colossale.
Tout à fait.
Pour des personnes qui ont l'habitude de travailler en bibliothèque, que représente le Pompilius Ébérou, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
Qu'il faut saluer.
Maintenant, comme toute œuvre,
il y a ses limites.
Maintenant, c'était la lecture de Pompilius Ébérou, rien n'empêche à quelqu'un d'autre d'avoir une autre approche qui ne remettra pas en question forcément le Pompilius Ébérou, mais qui enrichira.
Tout à fait.
Qui enrichira notre compréhension de la littérature. Et donc peut-être que c'est il y a des aspects de Pompilius Ébérou, par exemple dans le dernier article que j'ai publié dans Haïti Perspective sur l'enseignement de la littérature d'expression créole, je dis ce que nous avons là est pour beaucoup tu vois dans les choix faits par Pompilius Ébérou. Parce qu'on n'a pas, à part, on peut aller voir l'article, à part deux ou trois extraits d'œuvres en créole, mais y a, même pour les auteurs comme Félix Maurice Leroy, on n'a pas des extraits de l'œuvre théâtrale, il n'y a pas de... Donc je dis, comme c'est l'œuvre qui a servi à former plusieurs générations, effectivement, il y a des biais que nous constatons dans notre compréhension de la littérature haïtienne que je peux associer au choix de Pompilius Ébérou. Mm-hmm. Mais bon, ça, c'est le choix de Pompilius Ébérou. Oui. Une fois qu'on se rend compte de tout ce qui manque, ou une fois qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de lectures que nous ne partageons pas avec Pompilius Ébérou, eh bien, nous allons faire comme eux, nous mettre ensemble, monter des comités, décider, monter le projet d'une nouvelle histoire de la littérature haïtienne, et puis faire ce travail-là. Ce qui peut gêner des fois, on a l'impression qu'il faut casser l'autre pour apporter son propre discours.
Donc, on ne peut pas tout casser.
Je pense qu'il y a des choses qu'il faut balayer, c'est vrai, mais pas un travail de ce genre. Je balaye certaines lectures de Pompilius Ébérou, mais je ne balaye pas
tout.
Les trois tomes de l'histoire de la littérature haïtienne de Pompilius Ébérou.
Les rapaces, donc tu as parlé de la structure tout à l'heure, ça a quasiment la même que à mon...
La fameuse trilogie.
Fameuse trilogie, oui. Et oui, c'est vrai. Mais pas totalement la même
chose. Sur le plan de la structure, amont, colère, folie.
Vous voyez, dans les rapaces, on a l'impression que les histoires sont emboîtées.
Mm-hmm, mais
dans amont, colère et folie,
c'est trois
perspectives différentes d'une même réalité.
C'est comme s'il s'agissait de... Moi, je parle de trois romans.
C'est ça. On peut dire ça aussi. Mais c'est bien le fait que les trois soient ensemble. Parce que ces trois, c'est une même réalité, mais vue
sous trois
angles différents. Dans une petite bourgeoisie mulâtre de province, dans une petite bourgeoisie récente, d'accord, de ce qui était considéré à l'époque comme le quartier huppé de Port-au-Prince, qui est Turjo, j'ai dit bien à l'école, parce que ce que nous voyons là, écoutez, Turjo, et puis toujours les marginaux de la société, ceux qui voient trop bien, ceux qui... Mais à chaque fois, dans chaque récit de ce triptyque, vous avez tous les ingrédients qui sont déjà dans les autres.
Ouais.
Et c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est une même œuvre, mais avec trois. Et c'est bien qu'elle ait fait le choix quand même de garder les trois ensemble, parce que c'est une œuvre, et puis on a un éclairage à chaque fois différent d'une situation vue par des personnages qui n'évoluent pas dans les mêmes milieux sociaux, qui n'évoluent pas, qui ne partagent pas les mêmes philosophies, etc., etc. Amour, colère et folie, qu'est-ce qu'il faut dire de Amour, colère, folie en si peu de temps?
Marie-Vieux Chauvet, oui. Donc, c'est pratiquement une révoltée à lire Amour. Donc, dans Amour, il y a une petite révoltée. Donc, à la personne de Annette, par exemple.
Mm-hmm.
Annette, qui est une femme qui n'est pas du tout soumise, contrairement à ses deux autres sœurs, surtout à Félicia, qui est la figure de la femme soumise totalement. Claire donc a quasiment raté sa vie, mais Annette, c'est cette figure de femme disons libérée, émancipée, moi que j'associe et un petit peu à Marie. Donc si l'on prend l'aspect disons biographique de Marie, donc c'est un peu ça. Dans Fille d'Haïti, vous avez aussi pratiquement cette même figure avec Lotus. Lotus, au début, qui était une petite bourgeoise refermée sur elle-même, qui vivait dans la petite maison laissée par sa mère après sa mort, quoiqu'elle n'ait jamais connu son père, et bourgeoise. Qui ne voyait pas de très bon œil les gens pauvres, tu vois. Puis, par la suite, qui va faire la rencontre de Georges Caprou et qui va la transformer. On a aussi cette même figure de femme libérée qui prend des décisions, qui prend les devants dans les Fonds des Nègres également. Avec Anne dans Les Rapaces, la même chose s'est produite. Elle a pris, elle s'est imposée comme leader à la mort de Michel et son petit ami. Dans La Danse sur le volcan, vous avez la figure de Minette aussi. Donc, tu vois. L'œuvre de Marie-Vieux Chauvet est non seulement peuplée de femmes qui prennent des décisions, qui s'assument et qui assument leurs responsabilités, donc à la manière d'elle, c'est aussi une œuvre dans laquelle on voit qu'il y a toujours une histoire de transformation. Donc les personnages sont transformés, passent d'une situation A à une situation B. Donc, c'est une œuvre qui prône une sorte de discours sur un changement, un changement rêvé. Est-ce que tu es de cette idée-là que Marie Chauvet propose une autre société à travers et pratiquement son œuvre, une société plus juste, plus équitable?
Bon, on peut pas nier qu'il y ait ce désir de justice, d'égalité. Ça ressort dans les...
Mais surtout porté par les femmes.
Oui, porté par les femmes. Les personnages de Chauvet sont essentiellement des personnages féminins, en tout cas les personnages principaux. Mais je ne mettrai pas Lotus sur le même plan que Annette.
Oui, Annette est plus libérée.
Je ne le ferai pas parce que Lotus, de par sa naissance, est une marginale dans la société.
Fille de prostituée.
C'est la fille
d'une prostituée qui n'a même pas connu son père.
Voilà, qui n'a pas connu son père et qui vivait dans cette maison-là où cette mère recevait et ses protecteurs. Donc, déjà, elle est en marge du social. Et quand on est en marge de fait, vos marges de manœuvre aussi sont beaucoup plus grandes. Ne serait-ce que parce que les gens vous collent des étiquettes au départ. Mm-hmm. Donc, du coup, on n'a même plus besoin de leur prouver quoi que ce soit. Donc, choisir ce personnage-là, pour moi, c'est quelque chose d'intéressant parce que elle est moins conditionnée par les contraintes ou l'éducation bourgeoise des autres petites filles qui ont été scolarisées dans le même milieu qu'elle. Elle est tout le temps dans la marge. Elle est dans la marge par sa couleur de peau parce que physiquement, c'est une mulâtresse, mais elle n'est pas pour autant, elle n'appartient pas pour autant à la bourgeoisie. Voilà quelque chose d'extrêmement intéressant. À chaque fois qu'on me parle des problèmes de couleur de Marie Chauvet, les gens restent focalisés sur un aspect. Or, c'est l'un des auteurs à avoir complexifié le plus les questions de classe et de couleur en Haïti.
Question de pouvoir aussi.
Question de pouvoir. C'est une mulâtresse, mais qui est quand même fille de prostituée et qui est en marge. Mm-hmm. Qui est tout au bas de l'échelle. D'accord? Bon, elle a un peu d'argent parce que sa mère même a veillé à ce qu'elle ait moyen de vivre, sachant cette place marginale qu'elle occupera dans la société. Et peut-être que cette marginalité fait qu'elle était plus prédisposée que d'autres à cette prise de conscience et à cette forme d'engagement réel, assumé. C'est une éducation qui se fait, et c'est ce qui est bien dans le roman. Il y a quelques longueurs vraiment dans Fidaïti des fois, ce n'était pas nécessaire. Mais on suit quand même le parcours du personnage et puis cette prise de conscience qui se fait graduellement.
Quand elle a grandi avec la rencontre avec
Caprou. On la suit dans son évolution. Tu vois, Amour n'est pas, et Claire de Amour, on n'est pas dans le même schéma. Mm-hmm. Tu as une prise de conscience et puis tu as le carcan du milieu. De la bourgeoisie et de laquelle elle est issue, qui fait qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Et Annette, c'est déjà cet avenir-là qui est derrière Claire. Annette, c'est quand même c'est la plus jeune sœur.
Elle est
au début de sa vingtaine, alors que Claire approche les 40 ans. Oui. Donc, quand Annette avait 6, 7, 8 ans, le type de pouvoir qui est dénoncé était déjà en place. Les milieux étaient beaucoup plus mélangés déjà. Parce que quand vous regardez toutes les fréquentations d'Annette
dans le roman,
ce n'est pas les fréquentations de Claire, mm-hmm. qui est d'ailleurs très critique envers mm-hmm. elle. Et Annette, c'est déjà la petite bourgeoise désargentée qui travaille chez le Syrien.
Oui.
D'accord?
Et qui sort avec lui.
Et puis, qui a encore ses rêves de grandeur, qui a encore. Comment dire ça, qui a envie de recouvrer le luxe dans lequel elle avait grandi.
Elle a été élevée,
et
oui.
qui est plus ouverte, plus large d'esprit sur les différences entre les classes sociales, les questions de couleur, etc. D'ailleurs, elle finira par épouser Paul, mm-hmm. Fils de nouveau riche noir, qui pourra lui permettre d'avoir
de redorer son blason
auquel elle aspire.
Oui.
Donc c'est déjà un tout autre type de personnage, bien dans son monde et bien dans son milieu, hyper pragmatique, d'accord, qui a bien compris que pour obtenir certaines choses, qu'elle devrait tourner la page de
l'éducation de qu'elle a reçue, elle devrait mettre ça de côté.
Une bourgeoisie triomphante, etc. Donc on a des personnages comme ça, et je trouve, c'est toujours peut-être Yannick Lyons dans les études de Yannick Lyons. Dans les textes d'Alix Imra également, je pense que cette complexité-là est prise en compte. Comment elle déconstruit les rapports classe-race, tu vois? Elle déconstruit ça. Donc, on est très loin de la vision du noirisme ou des choses comme ça. Elle montre les contradictions qu'il y a à l'intérieur de chaque classe, qu'il y a entre chaque classe. Et ça, c'est quelque chose qu'elle avait déjà entreprise dans la danse sur le volcan. Parce que dans la danse sur le volcan, en montrant comment dans la société coloniale, les gens déjà, le, 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 les batailles entre blancs, grands blancs, petits blancs, oui, blancs de la métropole, blancs des colonies, entre les mulâtresses, les questions de teinte, les questions de entre les négresses, entre les nègres, entre les... C'est, on est dans, un, dans, dans une mosaïque, d'accord, qui rend compte quand même de la complexité des rapports humains.
Oui, des rapports...
Et ça, moi, ça me désole tout le temps qu'on ramène... Oui, Marie Chauvet dénonce énormément les questions de couleur dans toutes ses œuvres. Mais elle dénonce en montrant la complexité. Qu'est-ce que je dénonce au fond? Que Claire, qui est une bourgeoise, soit trop foncée pour se sentir totalement à sa place?
Par rapport à ses sœurs.
Par rapport à ses sœurs. Tu vois? Mm-hmm. Que Félicia soit dans la logique de la permanence du blanchiment.
Oui,
alors que Annette est tout à fait d'accord, oui, pour renoncer à ça à condition que elle ait les conditions de vie qu'elle souhaite. Je pense que c'est complexe.
Donc c'est un roman d'éducation aussi.
Et on refuse, donc, et malheureusement chez nous on refuse la complexité des choses et on refuse qu'il y ait la pensée complexe qu'il faut aussi pour saisir la complexité des œuvres. Donc on réduit beaucoup.
Et c'est ça le problème du biographisme.
Oui, et oui, je voudrais revenir à Lotus dans Fille d'Haïti, mm-hmm, et à son engagement et pour combattre, je dirais, un gouvernement, on va penser à l'ESCO, mm-hmm, parce que c'était les années 50, 40-50 dans le, mm-hmm, roman, ce n'est pas la dictature de Duvalier. Et on pense aussi que l'engagement de Lotus a aussi été un engagement auprès de son amant, Georges Caprou, beaucoup plus qu'un engagement politique. Elle voulait accompagner cet homme jusqu'au bout de ses rêves les plus fous. Et au lieu d'un engagement et penser, pousser, hein, c'est ça qu'il faudrait mettre en lumière chez Lotus, puisque Lotus s'est engagé non pas auprès des pauvres, mais auprès de son amant, qui, mm-hmm, va jusqu'à le suivre, laisser sa maison et aller à Kinskoff vivre avec lui jusqu'à sa mort. C'est ça qu'il faudrait, à mon sens, relever dans ce livre-là.
C'est possible aussi parce qu'il y a déjà une certaine sensibilité. Je ne dirais pas une certaine conscience, mais une certaine sensibilité. Au tout début de Fille d'Haïti, au moins sur les 60-80 premières pages, tu vois comment le personnage décrit, par exemple, cette scène où le père de famille se fait tabasser par un gars de la milice parce qu'il a volé deux bananes.
Oui.
Et sa femme intervient et puis ce milicien lui donne un coup de bâton, mais en plein visage, lui arrachant les dents, non, etc. Et c'est un père de famille qui est en train de crier, mais j'ai pris que deux bananes pour nourrir les enfants. Et elle regarde ça de sa maison. Et c'est un récit à la première personne, on a les impressions du personnage sur la situation qui est vécue. Vous voyez? Je veux dire, il y a déjà cette capacité à pouvoir voir, cette capacité à déjà pouvoir regarder sa réalité. Qui fait que, ça c'est mon point de vue, et peut-être que c'est comme ça que je lis quand même « Fille d'Haïti » de Marie Chauvet, Georges Caprou aurait pu être le plus persuasif possible si Lotus n'avait pas elle-même déjà cette capacité de voir et de comprendre pourquoi elle ne pouvait pas se rendre chez ses amis d'école. Pourquoi cette petite négresse qui était dans sa classe,
qui était tombée
n'était jamais, c'est L2 qui n'était jamais invitée chez leur ami là. L'autre, parce que, bon, L2, elle provenait d'une petite famille de la classe moyenne, bien propre, etc. Mais elle ne pouvait pas être invitée chez l'autre camarade de classe, je crois que ça s'appelle Annie, il faut voir. Pas plus qu'elle, Lotus ne pouvait y être invitée pour d'autres raisons.
Oui.
Vous voyez?
L'une pour des raisons de couleur,
l'autre pour des raisons d'une mère prostituée. Infréquentable.
Oui. Mm-hmm.
Je pense que c'est ça. Tu as des personnages qui peuvent voir. Minette dans la danse sur le volcan que j'ai relu ce matin, c'est ça aussi. C'est par rapport à sa sœur. Minette peut voir, Minette ressent ce que sa mère, Jasmine, ne dit pas. Parce que c'est une esclave estampillée qui est devenue affranchie à la mort du maître. Et elle n'a jamais dit à ses filles, mais c'est un fardeau, c'est tout un comportement, c'est tout qu'elle porte. Et Elisette peut voir ça, alors que la petite sœur, non.
Minette.
Je pense que ça, c'est quelque chose qui retient beaucoup mon attention. une intervention extérieure peut aider quelqu'un à faire le passage, là, à entrer dans une autre dimension de la conscience sociale, de l'engagement. Mais ça ne peut se faire que dans la mesure où, déjà de manière intrinsèque, le personnage est capable de voir. Le personnage est capable. Il faut que le personnage ait le don de vue.
Oui.
Quelqu'un qui est totalement aveugle à sa réalité, qui n'a aucune empathie avec les gens, avec son milieu, avec, ne peut pas.
Oui, bien sûr. Là,
ne
on
peut
pense
pas,
à,
ne peut pas faire ce cheminement.
La scène où Lotus s'est mise à travailler, où elle a rencontré la secrétaire qui dactylographiait avec mal et peine et sous l'ordre du directeur, du patron, et qu'elle a fini par démissionner ou a fini par prêcher je ne sais quel évangile à cette secrétaire. Quoique ça a eu plus d'impact négatif sur, que de, et je dirais, d'impact positif, comme l'attendait Georges Caprou, qui lui a blâmé suite à cette intervention, qui fait effectivement il y a une prise de conscience, une sensibilité, et qui fait qu'elle a été à l'écart durant toute son éducation, pas d'amis, pas de réception chez les amis, pas de dîner, etc. Et elle sent cette sensibilité. Mais et la pensée, je dirais même, ou l'engagement en tant que position de mode de vie, et elle l'a vécu par amour.
Ouais. Ouais.
Tout à fait. Donc cette question de sensibilité, et on l'a vu aussi pour clore avec les rapaces, chez aussi et Alcindor, et qui, au bout du compte, s'est transformé complètement. Et après sa rencontre avec Anne, et aussi le ministre, le père de Anne, donc s'est laissé aussi saisi par cette même sensibilité suite à la mort de sa fille. Et on a vu comment et tous les personnages évoluent, prennent conscience de leur situation et dans ce dernier roman, Les Rapaces, qui, comme on l'a souligné tout à l'heure, qui n'est pas trop connu.
Il y a un cheminement, ça c'est sûr. Donc, l'air, ce sera avec la lecture. Elle le dit dès la première page. Que le père Paul lui reproche d'avoir lu, d'avoir développé son intelligence, etc. Comment dire ça? Le guide peut prendre différentes formes. Pour l'une, ce sera une bibliothèque à sa disposition, hein, avec l'arrivée du beau-frère français Jean-Luz. Pour l'autre, ce sera cet homme-là, Georges Caprou. Pour une autre, ce sera
Michel.
Le retour. Enfin, le Hougan, qu'elle épousera
dans Fond des Nègres.
À chaque fois, bien sûr, qu'il y a un élément. Mais comme je vous dis, pour moi, c'est extrêmement important. Ce n'est pas comme s'il y a un homme qui arrive et puis qui ouvre les horizons qui étaient fermés. Je pense qu'il y avait déjà, à chaque fois, les personnages sont conçus comme ça. Ça, c'est ma lecture des choses. Comme ayant déjà ce don de vue.
Je partage aussi.
Il y a ce don de vue, il y a cette empathie, d'accord, qui... Ces personnages qui font attention quand même à leur milieu. Quand vous lisez les réflexions de Lotus quand même sur l'organisation sociale, c'est pareil chez Claire, c'est pareil chez etc. Annette, c'est comme tu dis, Annette trouve tout ça dépassé parce que elle est dans un autre ordre social. Elle a compris que cet ordre-là ne lui permettrait pas d'avoir ce qu'elle veut. Non, il y a toujours ça, il y a toujours, je pense, cet élément qui est déjà là et il y a un déjà là et il y a quelque chose qui peut amener ça jusqu'à l'engagement, comme Lotus, jusqu'au meurtre de Calédu, comme d'Amour, jusqu'au etc. Mais il y a un déjà là.
Oui, Calédu est ce personnage qui symbolise le pouvoir
dans Amour.
Il y a ça. Voilà.
Il y a ça. Tout comme... Bon, alors, dans Colère, par contre, c'est un peu différent. Oui, il y a des personnages féminins. Mais dans Colère, ce ne sont pas les personnages féminins.
Tout à fait.
Ni dans Folie, d'ailleurs. Dans Colère et dans Folie, ce sont deux œuvres
le poète
ou ce ne sont pas les personnages féminins
qui prennent le relais,
oui. Figure centrale de l'œuvre. Oui, Rose joue un rôle extrêmement important, d'accord, mais Rose, c'est la sacrifiée de la famille. Bon, vous me direz un sacrifice consenti pour un frère qui est très aimé, mais c'est la sacrifiée de la famille. Et puis, dans l'autre, bon, on est dans un monde fantasmagorique, de poètes poursuivis par des diables, etc. Et des diables, oui, qui sont là, qui existent. Mm-hmm. Les poètes, justement, toujours le don de vue. Mm-hmm. Les poètes voient ce que d'autres ne voient pas. Donc,
parce que le poète, c'est un mage. Ouais. Donc, oui, voilà.
Des
et,
fois.
Oui, donc, voilà. Et on aura beau parler de Marie Vieux-Chauvet, donc on aurait pris tout le temps, en fait, qui nous reste pour parler de l'œuvre de Marie Vieux-Chauvet, puisque et Marie, ce n'est pas une auteure et qu'il faut lire à, en fait, c'est une auteure qu'il faut lire en profondeur. Donc, une première lecture de Marie ne nous permettra pas de voir tout ce qu'il y a de caché et derrière les pages remplies que nous tenons entre les mains. Donc, merci, Darlene Alexis, d'avoir répondu positivement à notre invitation. Donc, grâce à toi, on a eu une très belle première émission sur Marie Vieux-Chauvet.
Merci à toute l'équipe de Livre Neuf. Merci de l'invitation. Et puis, merci de m'avoir offert l'occasion de parler de Marie Chauvet. Donc, c'est une de mes auteurs préférées, une des auteurs que je lis. Je relis très souvent. Et c'est l'une des auteurs avec laquelle... Moi, j'ai appris qu'une lecture ne suffit jamais à épuiser une œuvre. Et qu'on doit se faire le devoir de les relire aussi souvent que possible pour finir par dégager sa propre compréhension. Surtout quand c'est l'œuvre d'un auteur, et des œuvres qui arrivent accompagnées d'une histoire, comme les œuvres de Marie-Chauvet.
Voilà, donc merci à vous et qui nous avez suivis avec beaucoup d'attention. Je rappelle que nous avons reçu Darlene Alexis, professeure à l'École normale supérieure et à l'Université Quisqueya. Avec elle, nous avons parlé de la vie et l'œuvre de Marie Vieux-Chauvet, donc figure incontournable et romancière atypique de la littérature haïtienne et contemporaine. Donc le rendez-vous... Ce sera pour dimanche prochain pour une autre émission du même genre. Je rappelle que Livre Neuf est une émission proposée par la radio Magique Neuf en partenariat avec l'association Legs et Littérature Allel. Allez, portez-vous bien, à dimanche prochain. Au revoir.
Vous aimez le livre et la lecture ? Vous êtes branché littérature ? Legs Éditions met à votre disposition un éventail de livres de tout genre pour vous aider à affiner votre goût littéraire. Poésie, romans, nouvelles, essais. Les livres de Legs Éditions sont disponibles aux deux librairies La Pléiade, à Bois-Patate et à Pétionville, à Festival Arts et en son local au numéro 26 à Delma 8. Legs Éditions, littérature, culture, patrimoine. Vous aimez le livre et la lecture ? Vous êtes branché littérature ? Legs Éditions met à votre disposition un éventail de livres de tout genre pour vous aider à affiner votre goût littéraire. Poésie, romans, nouvelles, essais. Les livres de Legs Éditions sont disponibles aux deux librairies La Pléiade, à Bois-Patate et à Pétionville, à Festival Arts et en son local au numéro 26 à Delma 8. Legs Éditions, littérature, culture, patrimoine.
Depuis Port-au-Prince, Haïti, vous écoutez Magique 9. Magique 9 sur le 100.9 FM.
Les 26 et 27 mai, Livre en folie vous attend de 10h du matin à 5h de l'après-midi au parc historique de la Canne à sucre. Livre en folie, cette année encore, offre aux élèves, aux étudiants et aux parents le plus grand choix de conférences, de pièces de théâtre, de débats, d'expositions pendant la quinzaine du livre. Livre en folie, pour sa 22e édition, invite tous les jeunes à venir au parc historique de la Canne à sucre pour rencontrer à l'impossible, célébrer Marie Vieux-Chauvet, invité d'honneur de cette année et tous les plus grands écrivains haïtiens. Livre en folie propose aux tout petits, aux élèves et aux étudiants le plus grand choix de livres jeunesse, de livres d'histoire, de romans et d'essais à moitié prix. Directeur d'école, professeur, parents, programmez votre journée au parc historique de la Canne à sucre les 26 et 27 mai. Livre en folie vous attend de 10h du matin à 5h de l'après-midi. L'entrée est à 300 gourdes. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Pour les écoles qui veulent venir en groupe, 38 06 37 17 pour information. Livre en folie est une initiative du journal Le Nouvelliste et de la Uniban.
À l'occasion du centenaire de sa naissance. Écrivaine emblématique, porteuse de résistance, décédée en 1900.